prendre, là, on regardait sur les radars, ça se rendait jusque dans le Maine facilement, là, quand on était dans le principal panache de fumée, là,
ouais.
Le soir de la Saint-Jean, là, on voyait absolument rien. Là, absolument rien. Là. On était safe, mais la qualité de l'air était so-so, mettons.
Est-ce que, parce que certainement des gens qui nous écoutent, qui sont des adeptes de chasse et de pêche, là, la forêt, là, ça va y prendre combien de temps avant de se régénérer? Là?
Ça dépend tellement de ton peuplement forestier original, parce que tu as des espèces qui sont des espèces vraiment colonisatrices. Hein. Certaines essences de bois dur ou de bois mou, mais des essences arbustives qui, en quelques années, vont recoloniser quand même assez rapidement. Aller jusqu'aux forêts qui sont des forêts plus de bois dur, de bois noble, qui vont prendre des dizaines et des dizaines d'années à se régénérer. Par contre, faut comprendre que c'est pas étranger comme phénomène. C'est pas étranger, puis paradoxalement, nous autres, les êtres humains, on pense à nos infrastructures, hein, le chalet qu'on a là, la pourvoirie, puis là, non, c'est une ligne sensible parce que je comprends, puis je serais le premier à la course, à aller essayer de voir comment je peux sauver mon chalet, et etc. Mais reculons dans le temps. C'est pas la première fois qu'il y a des feux de forêt comme ça. Là. Avant, à part les infrastructures, il n'y avait pas d'urgence monétaire dans le bois. Là. Puis on n'avait pas de moyens de contrôle comme aujourd'hui. Puis si je regarde la forêt boréale canadienne, elle est encore là. Les animaux sont encore là parce que c'est un cycle qui, parfois plus fort, parfois moins fort, mais fait son passage à tous les X temps. Et puis c'est paradoxalement nécessaire, ce qu'on vit présentement à la régénération et à la pérennité de certaines espèces et végétales et animalières. On connaît le pin gris, entre autres, que la cocotte peut juste carrément pas expulser ses graines puis arriver à une germination puis créer d'autres arbres si elle brûle pas. Framboisiers, les bleuetières, il y a énormément de végétaux qui vont être bonifiés de ces feux de forêt-là, puis les fruits qu'ils produisent vont bonifier certaines espèces animalières. C'est cru à entendre comme ça parce qu'on pense à notre chalet, à notre bateau, puis à notre hydravion, puis à notre ci, puis à notre ça, puis c'est très, très, très compréhensible. Il y a de la tristesse humaine présentement. Il y a des gens, là, des commerçants, pourvoyeurs, etc., qui ont déjà remis leurs clés à la banque parce que le fond de terrain ne leur appartient pas. Tout ce qui leur appartient, c'est les bâtiments, puis c'est en train de brûler. Il y a de la détresse humaine là-dedans présentement, puis c'est vraiment pas facile. Mais paradoxalement, on n'a comme pas le choix de passer par ces stades-là. Puis oui, il y a peut-être des erreurs humaines dans l'initiation de certains de ces feux-là, mais une très grande majorité, c'est la foudre. Puis quand même qu'on reculera dans les années zéro, là, il y avait de la foudre, puis il y avait ces feux-là.
Ça a toujours existé, là. On n'était pas là, voilà. Puis ça existait. Tu sais, je fouillais dans les banques de journaux, puis je suis descendu jusqu'en 1900. Là. J'ai pogné 1902-1903, il y a un article qui titrait « Des millions de dollars en fumée, les feux de forêt continuent leur œuvre de destruction ». Tu sais, les gens sur les réseaux sociaux ont tendance à se crinquer les uns avec les autres. Là, c'est de la surenchère de qui sera le plus sécuritaire à la Saint-Jean. Toi, tu vas-tu t'acheter une chandelle, tu sais, parce que si tu mets une chandelle, là, comme, tu sais, pour célébrer la Saint-Jean, tu sais que si ta chandelle, il y a des étincelles, tu vas faire brûler tout ce qui se passe sur la Côte-Nord. Tu sais, c'est de la surenchère, puis les gens sont dans les délires. Mais comme tu dis, la foudre a toujours existé. La foudre a toujours allumé des incendies. Tu sais, moins qu'elle en allume, mieux qu'on est content. Mais malheureusement, ça existe. Puis, tu sais, je regardais l'article. Les feux de forêt continuent leur œuvre de destruction. On redoute toujours les caprices du vent. Tout le nord de Montréal est devenu un vaste brasier. La région du lac Saint-Jean subit de lourdes pertes. 1903, Martin, là, c'est dans le journal Le Canada qu'on appelait à l'époque. Et les gens ont tendance à ne pas être capables de relativiser les choses. Il n'y a pas juste au Canada là, où il y a des feux de forêt.
Non. Regarde les images que je t'ai envoyées tantôt, c'est de valeur, on ne peut pas les voir. On n'est pas dans un écran, on est à la radio. Là. Mais si on regarde la République du Congo, on regarde Madagascar, on regarde l'Amérique centrale, en bas du Mexique, on regarde un petit peu partout, même au nord, là, sur le continent, du côté de la Russie, puis etc. Si on se compare, on va dire on se compare, on se console, là, c'est terrible ce qui arrive présentement, mais c'est rien comparé à la République populaire du Congo là, présentement. Là, c'est incroyable. La carte, elle est rouge au complet. Il n'y a pas d'espace entre deux feux. Là. On dirait que le continent est en torche présentement. Les deux tiers de Madagascar aussi. C'est terrible ce qui se passe. Mais quand on prend la fameuse carte qui se promène partout, là, le fameux satellite qui monte les feux, là, allez vous promener ailleurs dans le monde, allez voir un petit peu de quoi ça a l'air. Puis l'Afrique, pour l'avoir côtoyé un peu, il ne manque pas d'animaux là. Il ne manque pas d'animaux là. Donc oui, Oui, pour nos infrastructures, c'est quelque chose. Là, on a beaucoup d'inquiétudes. Tu sais, les chasseurs et les pêcheurs nous écrivent beaucoup. Ça va te changer de quoi ma chasse? Ça va te changer de quoi ma pêche? C'est sûr qu'un secteur qui est brûlé complètement, bien, l'Orignal n'ira pas snacker là-dedans cette année. Par contre, les bûchers de première année, deuxième année, troisième année que ça va produire dans les prochaines années vont être excessivement bénéfiques pour les femelles, les veaux dans ces secteurs-là, pour votre chasse aussi, beaucoup. Il y en a ceux qui ont brûlé là-dedans, des orignaux, des ours, des chevreuils, des... Probablement, oui, c'est très, 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 très probablement, assurément, assurément. Mais est-ce que ça va assurer la pérennité des cheptels dans certains secteurs? Est-ce qu'on vient décimer des cheptels? Pas à ce point-là. Est-ce qu'on va bonifier certains cheptels? Oui, assurément. Les poissons, je vous assure que la majorité des lacs ne bouillent pas présentement. Là. La fumée en surface, oui, on a vu passer des théories où est-ce que ça vient modifier les échanges gazeux. Hein? Un caca de poisson dans l'eau, ça fait... ça se transforme en azote gazeux, là, le cycle de l'azote, donc ammoniac, nitrite, nitrate, puis azote gazeux à la surface. Donc, il y a besoin d'avoir un certain échange d'air à la surface qui est bonifié par la présence d'une bonne oxygène en surface puis le brassage par le vent. Là, il y a une couche de fumée sur le dessus. Certains ont avancé que ça vient modifier ça. Pas à ce point-là. On ne vient pas de changer le potentiel de réduction d'oxydation des lacs de la province au complet, puis on ne vient pas de tuer les lacs de la province au complet. Il y a peut-être quelques lacs qui ont mangé de la misère, pas à peu près, j'en conçois. Est-ce que ça va changer votre pêche à truite mouchetée cette année? Non. Non. À moins d'être vraiment à côté d'un lac qui a été lourdement affecté, là, vous ne verrez pas de différence à ce niveau-là.
Non. Puis est-ce que, je ne sais pas, moi, il y a moins de mouches, il y a moins de nourriture disponible pour les truites et tout ça, ça peut-tu avoir un impact?
Bien, dans les secteurs qui ont été lourdement touchés, oui, définitivement. Par contre, la truite, tu sais, on la voit souvent comme ça prend des mouches à survivre une truite. Attends un peu. Une truite, c'est principalement piscivore. Ce que ça veut dire, c'est que ça mange des poissons.
Okay.
Alors, la truite, là, vous allez voir, il y a un article qui s'en vient là-dedans dans le magazine. Là, je pense que Michel Piquet travaille là-dessus. Là. La truite, c'est un des plus grands prédateurs qu'on connaisse. Les gens ne la voient pas comme ça, la voient comme une proie. Mais la truite, c'est un des plus grands mangeurs de poissons. Ça va aussi manger les larves dans l'eau, les gamards, tous les petits copépodes, les petites larves qui se promènent. Ça se nourrit beaucoup, beaucoup sous la surface, une truite. Oui, ça vient chercher les éphémères, ça vient chercher les mouches en surface, etc. Ça fait partie de son alimentation. Mais est-ce que c'est 100% de son alimentation? Non, ça n'est qu'un pourcentage de son alimentation. Maintenant, à proximité d'un feu, c'est sûr que les mouches se sont brûlées les ailes, pas à peu près. Quand on a vu, nous autres, le panache de fumée arriver dans le bas de la tuque, on s'est dit « Ah, ben tabarouette, on n'aura pas de mouches. » L'engrais à mouches. <C'est>... Non, il y avait deux panaches. Il y avait un panache de fumée et un panache de mouches, je te dirais. Mais ma peau en témoigne encore, puis on est revenu dimanche, là, il y en avait de la mouche. Fait que c'est pas aussi totalitaire que ça. Là. C'est pas aussi totalitaire que ça. Et honnêtement, les secteurs qui ont été brûlés, bien, la vie y revient quand même assez rapidement. Puis la vie, elle est, la faune, elle est en premier, puisque c'est plus facile pour elle de se déplacer. Ça comprend les mouches. Bien, on revient au départ. C'est pas la première fois qu'il y a des grands brasiers comme ça. Ces grands brasiers-là, si on prend tout le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est rendu des paradis à bleuets, sont aussi des paradis à ours noirs, à orignaux, à gélinottes, à lynx. Les Monts-Valin, c'est plein de lynx. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de petits lièvres, il y a beaucoup de gélinottes, parce qu'il y a beaucoup de petits fruits que la forêt a régénérés. Dans la régénérescence de la forêt, la compétition sous-étage versus les grands arbres. Quand tu as beaucoup, beaucoup de grands arbres et le soleil ne pénètre pas, ben, ta nourriture de sous-étage, elle est moins présente. Mm-hmm. Quand il y a un ménage qui se fait comme ça, ben, il y a toute une génération de sous-étage ou de petites espèces arbustives qui vont survivre un bon bout, qui vont permettre à des populations de gélinottes puis de lièvres de prendre le dessus. Là, whoop, tu vois le lynx qui commence à converger vers là, le coyote vers là, le loup aussi qui est présent. Là, ça reprend son cours, si bien que après tous ces grands brasiers-là, le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un des secteurs les plus giboyeux qu'on a au Québec dans le multi-espèce. Ça reste que c'est ça. Quand tu fais ton chiffrier et tu regardes dans le bas de la feuille, c'est ce qui est écrit parce qu'on le constate quand on est dans le bois. Là-bas, il y en a en tabarouette du gibier. Là.
Puis tu parlais tantôt des pourvoyeurs. T'en as qui vont trouver le temps long. Est-ce qu'il y aura une montée des coûts dans les prochaines années pour essayer de se refaire un peu? Parce que tu sais les gars, ils sont pas là pour. Ils n'opèrent pas pour perdre de l'argent. Là. J'imagine qu'ils vont vouloir essayer de se refaire. Ça va-tu avoir un impact selon toi?
Bien, il n'y aura pas le choix d'avoir un impact. Pour ceux qui vont rester en vie, parce qu'il y en a quand même beaucoup là, qui mangent la claque là-dedans, ils ont accès à une assurance jusqu'à concurrence de 10 000 $. Là. Fait que quand même, bien que tu auras perdu pour 100 000, c'est 10 000. Parce qu'ils ne sont pas vraiment assurables par les assurances standards, parce que le fonds de terrain ne leur appartient pas. C'est des bails locatifs avec l'État pour 90 % des pourvoyeurs. Les bâtisses leur appartiennent, mais vu que ça ne t'appartient pas, c'est comme pas assurable dans le standard. Ils ont des fonds d'assurance collectifs avec les fédérations, etc. Mais c'est sûr et certain que si le gouvernement ne vient pas en aide, un peu comme dans le temps de la COVID, le gouvernement a appuyé fortement les autres réseaux organisés, CEPAC, ZEC, etc., mais ils n'ont pas, jusqu'à la dernière minute, sont pas venus en aide aux pourvoyeurs en subventionnant. Ils leur ont fait un prêt de, je me trompe pas, c'est un prêt de 40 000 chaque avec une échéance, sinon ça monte à 60 000. Là. Une histoire de même, là, sous forme de prêt. Donc, tu sais, cette classe de gestionnaires de la faune-là que sont les pourvoyeurs, c'est des vikings. Là. Je veux dire, ils vont encore passer au travers de tout ça sans avoir d'aide directe. Si on leur apporte un aide, ça va être un aide prêtée avec les intérêts qui vont avec. Mais c'est sûr.
Mais je savais pas qu'ils n'étaient pas assurables, là, les bateaux.
Ils le sont, mais pas de la même façon que toi, tu vas pouvoir assurer ta maison parce que ton terrain t'appartient à toi, tu es propriétaire de tout le bien au complet. Là, eux autres, le bail locatif, si l'État décide de reprendre le terrain à la prochaine signature de bail locatif, tu as tout le loisir de te sauver tes bâtiments si tu le veux, mais bonne chance. C'est souvent des bâtiments qui sont centenaires. Déjà, tu te rends là en faisant 2-3 portages chez Lac ou par du chemin forestier qui n'est pas trop passable des fois. Non, tu sais, ils sont pas. Les gens voient les pourvoyeurs là, comme hey, si t'achètes une pourvoirie, il va être millionnaire l'année prochaine. Es-tu fou? Il faut qu'il le soit pour l'acheter. Après ça, il devient probablement dans la classe moyenne inférieure dans les 2 premières années parce qu'il flambe son million.
Mais il y a une maudite belle vie, par exemple.
Oui, il y a une maudite belle vie s'il le fait par choix de faire de la gestion forestière. Tu sais, un commerce, un dépanneur, un client va rentrer, va acheter quelque chose, il va avoir une plainte, on va gérer, on va remplacer par une autre bière parce que la première n'était pas bonne, puis bonsoir. Le pourvoyeur, le client rentre là pour une semaine. Si au départ, ça a mal été sa route, exemple, il a fendu un pneu, puis là, il n'est pas content après le pourvoyeur parce que le chemin qui est entretenu par les forestières n'était pas à son goût, mais le gars, il avait des pneus low profile quand il est monté là, un petit char sport, puis il n'a pas compris que pour monter dans le fin fond du bois, c'est peut-être pas la bonne idée. Là, ben, il commence à mettre ça sur les épaules du pourvoyeur. Puis là, le pourvoyeur, il faut qu'il s'assise pour prendre le téléphone sur son satellite pour essayer de trouver un service pour faire remorquer le char en dehors de là, réparer le pneu. Là, ça tombe mal parce que le premier lac que le client fait au premier matin, gros vent du nord, poignée de la petite truite, puis lui, c'est un gars qui veut un quota. C'est une belle vie, mais c'est une vocation en tabarouette. Nos pourvoyeurs, là, ils travaillent fort, puis ils n'ont pas, oubliez pas, ils n'ont pas le soutien que l'État va donner aux autres grands réseaux organisés. Si la fosse septique pète pendant la nuit ou que ton frigidaire, il lâche, hein, c'est directement dans ses poches. Il n'y a pas ce support-là. Fait que ce qu'il y a pour faire rouler la pourvoirie, c'est ce que tu lui amènes comme argent quand tu prends un forfait. Fait que, est-ce qu'on peut escompter des augmentations de prix pour l'an prochain? Ils n'auront pas le choix. Là. Ils n'auront pas le choix de s'ajuster. Eux autres aussi, le carburant fossile a augmenté énormément. Eux autres aussi viennent de passer au travers de la COVID. Puis honnêtement, pour ce qui est des pourvoyeurs, ils n'ont pas tant changé leur forfait que ça présentement. Parce qu'ils ont opté beaucoup plus, hein. Ils sont fédérés ensemble, ils ont une fédération des pourvoyeurs. Ils ont opté pour donner de l'accessibilité, la facilité à l'accessibilité. Ils ont énormément respecté le consommateur là-dedans. Mais là, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils aillent se rechercher une coupe de scène dans quelque part parce que vous n'aurez plus de pourvoyeurs autrement. Là.
Les auditeurs se posent sûrement la question, là, parce que tu sais, il y a des animaux qui peuvent se sauver rapidement, là, puis il y en a d'autres qui sont forcés de rester là, entre autres là, des jeunes bébés qui venaient de naître au printemps, qui sont peut-être pas encore assez forts. Tu sais, ça aussi, il va y avoir un impact. Là. Tu sais, on parle de régénération pour ce qui est des arbres, des plantes et tout ça, mais pour ce qui est des animaux, mettons les oiseaux, ça va être un petit peu plus compliqué dans les prochaines années.
Bien, ça peut l'être, dépendamment des oiseaux. Les oiseaux qui sont plus terrestres, comme par exemple la gélinotte. T'sais, si vous êtes en forêt ces temps-ci, vous entendez beaucoup tambouriner les mâles gélinotes parce qu'ils font la cour, parce qu'il y a une couvaison. Les ours, présentement, se courent après pour faire des bébés dans le bois. Là. On les entend grogner tout le tour des caches. Ils se courent après pour s'accoupler. Ben, c'est sûr que quand le feu pogne...
Ils sont comme des bonnes années du Bogart. Ça grogne, okay, ça court.
Solide, ça. Et Palladium, Bogart, toute la gang ensemble dans le bois. Je dis, on est assis dans nos caches. Ça, c'est, généralement, là, ça diminue après à Saint-Jean. Il y a comme un couple de semaines avant Saint-Jean, là, où est-ce que c'est vraiment, là, c'est le Bogart, le Palladium, pis etc., là, à plein bois. T'es assis dans ta cache, là, t'entends tout le tour. Là, ça se court après. T'es entends marcher, t'es entends passer à côté de la cache. Puis ils viennent pas, ça abeille. C'est quand t'es dans une situation comme présentement, où est-ce que N'oubliez pas que les pourvoyeurs, dans beaucoup, beaucoup de secteurs, ont été restreints dans l'utilisation des VTT pendant des semaines. Donc, pendant des semaines, ils n'ont pas pu aller porter de nourriture au site apporté. Fait que les ours ont quitté, dans certains cas, là, les sites apportés. Puis ça, le pourvoyeur ne peut rien faire contre ça. Puis ça, c'est quelque chose d'autre qui fait fort pour eux autres. La saison de la chasse à l'ours, pour les pourvoyeurs. Un pourvoyeur, là, quand il ouvre sa pourvoirie au printemps, là, juste ses frais fixes pour ouvrir sa pourvoirie, il peut en avoir 150, 200, 250 000 faciles de frais d'ouverture. Les chasseurs à l'ours, ce sont les premiers chasseurs qui rentrent, qui vont venir éponger ça puis recréer une espèce de cash flow. Ils viennent de se faire scraper ça. Ça, c'est majeur. Maintenant, quand tu me parles de l'incidence sur ces animaux-là, bien, c'est sûr et certain que les ours qui sont en train de se courir dans le bois pour faire des bébés, là, il y a le panache de boucan puis le feu qui arrive, ils se déplacent, ça change leur comportement. Est-ce qu'on va sauter par-dessus une mise bas chez ces femelles-là? Probablement. Les couvaisons dans le bois de certaines espèces d'oiseaux, est-ce que là, on a des œufs à coque? Ça ne fera pas des enfants forts, c'est sûr et certain. Donc, c'est sûr que ça a un impact. C'est sûr. Par contre, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, on va recréer beaucoup de petits fruits puis beaucoup de micro-alimentation qui va rehausser la capacité de soutien de ces milieux-là, donc qui va rehausser les populations de ces animaux-là. Un peu comme, puis ça, on en a parlé déjà ensemble dans le passé. Ouais, cette année, on ne voit pas beaucoup de coyotes, on ne voit pas beaucoup de lynx. Oui, les dernières années ont été des années qui ont été pauvres en gélinotte puis en lièvre. À un moment donné, tu vois la gélinotte puis le lièvre qui augmente, puis là, tout d'un coup, ben, ça redrop. Et on recommence à avoir des coyotes, on recommence à avoir des lynx. Ben, c'est la même chose pour les petits fruits puis le reste de la nourriture dans le bois. Là, il y a les grands feux. Ça brûle, ça fait cuire des œufs à la coque carrément dans les nids d'oiseaux. Ça déplace les habitudes de certains animaux qui ne feront pas de mise bas. Par contre, ça va permettre ce qu'on appelle des bûchers de régénération. Donc, de la petite feuille tendre à manger pour tout le monde, du petit fruit à manger pour tout le monde, ça va rehausser la capacité de soutien du milieu. Quand les animaux vont réintégrer ces milieux-là, bien, puisqu'il y a plus de bouffe, bien, comme le lynx va faire des plus grosses portées quand il y a beaucoup de... Puis c'est vrai, ça, là, le lynx, les coyotes vont faire des plus grosses portées quand il y a de la nourriture de disponible, de la gélinotte puis du lièvre. Bien, c'est la même chose qui va se passer. Il va y avoir plus de reproduction, plus d'animaux. On va assister à une régénération de ces secteurs-là. Fait que oui, pour répondre à ta question, ça a probablement... et tuer et empêcher dans leurs habitudes plusieurs animaux de mener le cycle de reproduction jusqu'au bout. Par contre, c'est des secteurs qui étaient rendus matures, donc limités dans leur capacité de soutien de ce milieu-là, qu'on vient régénérer. Fait qu'on va avoir une contrepartie très positive l'autre bord de la ligne.
Okay. Puis est-ce qu'on va faire des cartes là, pour ce qui est des prochaines semaines, les prochains mois, pour ce qui est des chasseurs-pêcheurs, pour savoir quel endroit est plus exploitable que d'autres?
Ça revient généralement aux exploitants. Hein. Une CEPAC, une ZEC ou encore un pourvoyeur va, sur ses cartes d'origine, aller indiquer qu'est-ce qu'il en est de l'état de son territoire, à savoir qu'est-ce qui est chassable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce ne sera probablement pas gouvernemental si ça se fait.
OK. Puis pour les gens qui sont intéressés à, mettons, aller chasser dans les prochains mois, les chasser et pêcher, là, dans les prochains mois, eux, ils doivent appeler directement à la pourvoirie pour se faire aiguiller, c'est ça?
C'est la meilleure chose à faire. T'sais, oubliez pas que c'est quand même pas tout le secteur. Il y a beaucoup de secteurs qui ont zéro été touchés. Ils ont été mis en état d'urgence, mais ils n'ont pas été touchés. Si vous êtes dans un secteur qui n'a pas brûlé, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Mais définitivement, la meilleure personne pour vous informer, c'est votre pourvoyeur, c'est celui qui vous accueille. Votre pourvoyeur, votre ZEC ou votre CEPAC ou votre Airbnb, peu importe, votre guide, appelez ces personnes-là pour vous renseigner. Est-ce que mon secteur est encore accessible? Y a-t-il encore des arbres et des animaux debout? Oui, bon, parfait, c'est bon, on y va. Mais n'oubliez pas que ces secteurs-là qui ont brûlé, dans les prochaines années, entre autres les chasseurs à l'orignal, ça va être des secteurs, dès que les bûchers vont reprendre, qui vont être prolifiques au niveau de la chasse.
Les autres questions que j'avais à te poser. Ah non, tu sais, je voulais te parler de mon expérience. J'étais allé me promener en moto en fin de semaine, puis j'étais aux Équerres. T'as-tu déjà été là aux Équerres, entre oui. Valcartier puis Tewksbury?
J'ai moi aussi raccourci des pegs de moto de côté des Équerres, oui.
Mais moi, je conduis très lentement, là. Mais j'ai pogné un petit renard qui était sur le bas côté de la route, puis quand il était sur le point de traverser, puis quand il m'a vu, il est revenu. Hey, c'est de toute beauté là, de voir ça de proche comme ça. Là, on dirait un gros matou, mais c'est un renard roux, mais avec la face noire. Là. C'est
un petit hybride.
C'est un hybride.
Exactement. Est-ce que c'était un bébé ou...
Ben, il était... Ben, écoute, moi, j'en vois pas. J'ai pas la chance d'en voir régulièrement comme toi, là, de ce type de bête-là. Là. Mais je pense que c'était peut-être jeune adulte, femelle. Là. C'était pas il était pas très gros, en tout cas.
Parce que c'est la saison, là. C'est la saison où est-ce qu'on va les voir. Là. Entre autres, les ratons laveurs et les moufettes, présentement, même dans la rue ici, là, dans mon quartier, là, à deux entrées d'intervalle, là, dans le petit boisé du premier, il y a une portée de ratons laveurs. On arrive avec les chars, puis ils se pointent sur le bord pour venir voir. Puis tantôt, je suis parti faire des commissions, puis je disais, ah, ben, regardons, il y a trois bébés moufettes qui jouent ensemble, comme des petits chats qui jouent ensemble en plein milieu de la rue, juste ici, à trois entrées d'ici. C'est la saison où est-ce qu'on les voit présentement. Puis ça, je te dirais qu'on a reçu beaucoup de questions là-dessus par rapport au feu, parce que beaucoup de personnes ont trouvé des bébés moufettes, des bébés ratons laveurs, des bébés d'autres espèces qui, visiblement, étaient rendus orphelins. De par le feu... soit que les parents ont été brûlés ou encore dans l'affolement de la fumée qui se sont écartés puis qui se sont pas retrouvés. Et puis là, la question, c'est je nourris ça comment? Je garde ça dans quoi? Je l'élève comment? Tu fais rien de tout ça. T'appelles le numéro, c'est le même numéro pour toutes, t'appelles SOS Braconnage. On appelle les agents de service, les agents de protection de la faune. Le service de protection de la faune, c'est eux qui vont s'occuper de ça. Jamais, jamais, vous n'avez le droit. Puis c'est on le tolère, mais on pourrait même dire ça des couleuvres, salamandres, etc. On n'a pas le droit de garder un animal sauvage en captivité, point. That's it, that's it. Et de l'habituer à venir se nourrir sur le perron tout le temps, c'est pas d'y rendre service non plus, parce qu'il apprendra pas à se nourrir par lui-même dans le bois. Donc, qu'est-ce que vous faites? Non, je vous dirai pas comment les nourrir, je vous dirai pas comment les garder, comment les scier. Oui, c'est super fin, c'est attachant, c'est... Un raton laveur, là, c'est dépendant affectif, jusqu'à temps qu'il se mette à grimper dans les étagères, dans votre maison, puis tout tire à terre, là, vous allez trouver ça super le fun. Mais on ne fait pas ça. On s'en réfère au service, parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent présentement. Vous en trouvez des bébés, on le comprend. Oui, c'est cute, ça a tout l'air des petits Pokémon. Vous voulez tous leur donner des noms, puis les rentrer dans la maison, mais on ne fait pas ça. C'est illégal et c'est nocif pour eux autres.
Ouais, c'est comme un mauvais réflexe qu'on a. T'sais. Puis chez nous, où j'habitais avant, on avait comme un lac artificiel qui avait été creusé dans les années 70. C'était pas un gros lac, là. C'était un petit lac, mais c'était suffisant pour qu'il y ait des canards qui viennent puis qui établissent leur portée là. Puis le temps que les bébés canards apprennent à voler, ben, ils étaient sur le lac puis ils se promenaient sur les terrains. Bien entendu que les canard, il venait nous voir. Là. Puis bien entendu que le premier réflexe, c'est d'y picher des trucs à manger, du pain. Ça a l'air que c'est hyper néfaste pour les canards, en plus. Oui. Mais c'est toujours le premier réflexe. Puis là, t'es content de montrer les bébés canards à tes enfants. Ben. Mais en même temps, c'est l'éducation qu'on n'a pas. Là. C'est...
Non, définitivement.
Nous, on voit on trouve ça joli, on essaie de nourrir ça, mais dans le fond, on leur nuit.
La fonte, excuse-moi, la fonte sauvage doit rester sauvage. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas venir interférer là-dedans. Vous interférez dans énormément de choses. N'importe quelle plante, poisson, bactérie, animal dans le bois a sa raison d'être puis fait partie d'une réaction en chaîne qu'on appelle un écosystème. Quand vous le retirez de là, vous venez de le soustraire à un écosystème duquel il est un participant important dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, vous venez de l'aliéner totalement à la vie sauvage. C'est-à-dire que le beau bébé raton laveur, là, vous occupez, puis juste une semaine, on va le remettre dans le bois. Désorienté, essayer de trouver où est-ce que vous êtes parce qu'il est rendu dépendant affectif en plein milieu d'une savane. Il y a un oiseau de proie qui va le ramasser, puis c'est terminé. Là. Vous n'avez pas aidé personne. Là. C'est ce qui se passe.
Oui. Hey, Martin, je sais pas, j'ai pensé à toi aussi la semaine passée. Ça doit être de 6-7 jours. Moi, c'est ça. Il y avait eu une... partout au Canada, il y avait eu une opération policière. Puis les policiers avaient qu'un seul objectif, c'est de mettre la main sur des armes à feu. Et ils en ont pogné pas mal, là. Mais le problème, c'est que c'était pas des armes à feu qui avaient été achetées au Canada. Là. C'était vraiment des armes à feu qui avaient été bâties avec des imprimantes 3D. Écoute, les chiffres font peur, Martin. 440 armes à feu, puis une cinquantaine d'imprimantes 3D qui ont été saisies.
C'est ce que C-21 devait adresser au départ. C'est pour ça qu'on a mis ça en place. Puis il n'y a rien dans C-21 pour contrer ça. Rien. On a continué à s'acharner sur nos armes légales. Oui, absolument, j'ai vu ça aller, puis c'est désolant.
Y a-t-il quelqu'un qui s'est excusé auprès des chasseurs?
Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Ben, on regarde, par exemple, les Christina Michaud de ce monde, etc., qui, après le fameux CQ meeting, là, où est-ce que ça a brassé un peu, qui ont reçu des milliers de plaintes par leurs électeurs. T'sais, Mme Michaud, entre autres, est dans le Bas-Saint-Laurent, là, si je ne me trompe pas, Gaspésie ou ces coins-là. Mais, on les a vus faire marche arrière après et parler beaucoup de leur clémence envers les chasseurs, de leur amour envers les chasseurs, puis de leur compréhension envers... Ils ont compris que ça brûlait quand ils touchaient à ce secteur-là. C'est un petit peu ce qui a fait bouger les choses rapidement. Hein. Parce que quand on touchait aux tireurs sportifs, eh bien, ils sont moins représentés dans le nombre que les chasseurs, mais ils sont tout aussi importants. Mais ça leur brûlait un petit peu moins les doigts. Quand ils ont touché aux chasseurs, ça s'est mis à leur brûler les doigts en tabarouette, puis il a fallu qu'ils reculent. Puis non, il n'y a pas eu d'excuses, mais on les a vus changer leur approche de tout ça. Mais encore une fois, c'est désolant de voir qu'on a continué à travailler le dossier dans le sens d'aller voir les propriétaires légitimes d'armes à feu qui ne sont pas présents dans la législation ou dans l'histoire de la criminalité au Canada d'un crime commis par arme à feu, à moins qu'il y ait eu détresse psychologique. Puis, on a mis un projet de loi qui devait aller vers ces armes-là dont tu parles, soit les imprimer 3D ou encore les armes smugglées traversées de la frontière ou encore les individus qui, de par leur profil psychologique, n'ont pas d'affaire à avoir d'armes à feu et de venir interférer à ce niveau-là. Puis là-dessus, bien, il y a fuck all qui a été fait, même qu'au contraire, on a diminué les conditions pour les remises en liberté sous caution, puis on a tiré la C5 au travers de ça qui donne, on en a parlé souvent, là, accès à peine minimale pour des crimes commis par armes à feu ou d'autres choses pour limiter la surreprésentation de certaines communautés dans le milieu carcéral. Fait qu'on a non seulement pas touché à ce que tu me parles là, puis là, on est en train de prouver qu'on aurait dû le faire parce qu'on en trouve partout, puis il va continuer à en avoir. Tu sais, je vais dire de quoi de gros, Yannick, là? Mais ça, c'est vraiment... J'ai toujours donné ma lecture du data, des données dans ce dossier-là. Je vais te donner mon opinion, ma vraie, par rapport à ce que le gouvernement de Justin Trudeau vient de faire avec sa Christie loi C-21 et la loi C-5, parce que c'est rendu plus trop grave pour certaines communautés de commettre des crimes par armes à feu. Qu'on vient de faire, c'est la promotion du marché noir des armes à feu. Je m'arrête là, j'ai pas rien d'autre à dire. Le gouvernement Trudeau vient de faire la plus grande promotion du marché noir et de la contrebande des armes à feu que le Canada ait jamais vu en mettant les mesures restrictives qu'ils ont. Ils ont ouvert les marchés comme jamais avant.
Mais ça coûterait quoi, Martin, de durcir les sentences pour ce qui est des gens qui sont pris avec des armes à feu illégales, des armes à feu qui ont été bâties avec des imprimantes 3D, des armes à feu qui ont été importées des États-Unis, qui ont transité vers les réserves, qui sont arrivées ici? Pourquoi on ne durcit pas les sentences des propriétaires, ceux qui achètent ces armes à feu-là puis qui se font prendre avec? Ces gens-là, pour la plupart, c'est pas des gens qui sont des agents de sécurité puis des policiers ou des gens qui vont à la chasse et la pêche. Là. C'est des gens qui ont ils ont un impact à partir du moment où il y a une arme à feu, qui est en possession d'une arme à feu. Là.
Ben, on joue et on agit là où est-ce qu'il y a une possibilité de faire une belle grosse pancarte. Là où est-ce que c'est visible pour le public, puis où est-ce qu'on peut créer un wow. Parce qu'en réalité, si tu fais le calcul du coût de mettre des systèmes en place pour faire de la prévention et que tu compares ces coûts-là au coût qu'a tout le processus législatif de prendre ces bandits-là, de les poursuivre, de mettre un agent de libération là-dedans, le milieu carcéral, la famille qui a des décès, l'enterrement, les enquêtes, le ci, le ça. Moi, je suis pas mal persuadé que si on fait le calcul, on serait gagnant. On diminuerait énormément les investissements de l'État en agissant avant plutôt qu'en supportant le processus législatif qui s'arrête toujours avec un arrêt Jordan ou quelque chose comme ça au bout de la ligne. Donc, on le perd dans la brume. Puis le bandit recommence à faire des méfaits. Donc, on serait gagnant au départ, on dépenserait moins d'argent à limiter avant qu'en supportant le processus législatif. Mais ce sont des cas isolés qui ne forment pas un beau gros wow sur une pancarte quand tu as besoin d'aller en élection puis de dire votre bon gouvernement vous a protégé des méchants fusils. Et ça, c'est facile à passer comme message dans les médias traditionnels. C'est facile. On était à une certaine époque, au début de la C-21, où est-ce qu'on... On allait dire aux gens, là, en plein bulletin de nouvelles, que les chasseurs, ils chassaient la perdrix avec des Kalachnikovs puis quasiment des full automatiques puis des missiles Scud. Mais c'est ça. Puis la personne qui est assise dans le divan, c'est pas de sa faute. Elle n'a pas d'autre source de renseignement que ça. Ce qui passe à l'écran, c'est tout ce qu'elle a comme source de renseignement. Ah ouais, mais là, ils n'ont pas besoin de mitraillette pour chasser la gélinotte. Mais très bonne nouvelle, madame. C'est illégal depuis les années 70, une mitraillette. Il n'y en a pas de point. Ils ont bâti un visuel et une narrative qui est très complaisante dans le sens de ce qu'ils ont mis en place et qui les place dans une position de sauveur quand, en réalité, ils ont sauvé fuck out.
Ouais, mais la proactivité, Martin, ça passe jamais dans le journal.
Non, non, non.
C'est
non,
la
non.
réactivité suite à un événement tragique qui va faire en sorte que le politicien va faire le tour du Québec.
Oui. Un politicien, attention. Avant, on avait des politiciens, puis encore là, ça a lâché il y a longtemps. C'est plus des politiciens, c'est des stratèges politiques.
Non, il y a ça. Mais tu te souviens-toi, là, quand il y a eu le massacre de l'Halloween là, à oui. Québec, là, le gars oui. qui s'est promené avec un sabre qui avait comme objectif de découper tout ce qu'il voyait passer. Quelques heures après, il y avait la Guilbeault qui était assis sur sa chaise devant des médias puis qui mentionnait avec Lionel Carman qu'il allait avoir plus de 100 millions qui allaient être octroyés pour ce qui est des gens qui avaient des problématiques de santé mentale en raison de la pandémie. Cet argent-là là, n'a probablement même pas été injecté. Puis elle n'a servi à personne, sauf qu'avec cette conférence de presse-là, on avait l'impression qu'elle gérait quelque chose.
Bien, écoute...
Mais 100 millions-là, s'il avait été donné un mois avant, n'aurait jamais passé dans le journal. Là.
Mais c'est pas payant. C'est pas payant, politiquement parlant, de dire on va s'occuper de faire du dépistage dans la détresse psychologique, etc. Regarde, même affaire, le gouvernement de Justin Trudeau, là, depuis 2015, ils disent qu'ils mettent tout leur surplus dans les services frontaliers, etc., je les ai sortis les chiffres il y a une couple de semaines. Là. Le nombre d'agents de services frontaliers qu'il y a pour notre frontière au complet, puis les enquêtes à l'interne, à l'externe, puis etc., avec tous ces millions-là qu'ils ont mis là-dedans, là, qu'ils disent avoir mis là-dedans, là, il y a à peine bougé. Là. Il y en a à peine plus. Ce qu'il y a beaucoup plus, c'est des agents administratifs. Ça, ça a plus que triplé. Fait que c'est une chose de mettre de l'argent. Mais qu'est-ce que tu en fais de cet argent-là? Puis quelle efficacité vont avoir les choix que tu vas faire, les choix d'investissement de cet argent-là? Depuis 2015, le gouvernement Trudeau nous a prouvé qu'en investissant tous ces surplus, ces millions-là d'un service frontalier qui n'ont absolument rien changé, le nombre d'agents de services frontaliers, il a à peine fluctué. À peine fluctué. On serait attendu qu'il double, qu'il triple avec ces montants-là. Il a à peine fluctué. Ben, tu sais, c'est tout un rapport de... C'est tout un rapport d'impression publique. Qu'est-ce que ça donne comme impression publique? Qu'est-ce que je promets ou qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je fais comme action dans le peuple? Puis la prévention de la détresse psychologique, bien, ça figure pas dans les affaires qui font « wow » sur le dessus des journaux. Parce que les journalistes, c'est pas le genre de sujet à sensation qui va dire « Ah, Justin Trudeau fait un grand geste en faisant de la prévention au niveau des troubles mentaux. » Ça dit pas grand-chose à personne. Justin Trudeau va complètement annihiler les armes à feu du Canada, ça, ça parle fort, ça, ça donne des votes, ça, ça... C'est une belle grosse pancarte électorale. On choisit, on est stratège, on n'est plus en gestion, on est en stratégie. C'est fou raide, puis c'est triste parce qu'on regarde nos enfants qui évoluent là-dedans. Là. On essayait de mettre les gens un petit peu au diapason, faire regarder le processus législatif qui est biaisé dans le cas de l'étude puis de la mise en place de C-21. Oubliez pas que vous avez C-11 et C-18 qui s'en viennent.
Oui.
Vous devriez vous intéresser au processus, peut-être pas au sujet, mais au processus, et de comprendre que c'est complètement fou raide la façon dont ils sont en train de placer et d'installer la loi qui part d'un décret en conseil dans un état d'urgence sanitaire qui est l'équivalent de la loi martiale, donc qui n'a pas passé devant aucun conseil des ministres, et nous le tire dans la gorge, puis qu'après ça, peu importe qu'est-ce que... J'allais dire l'objection, mais l'opposition dit ou les consultations populaires disent, ils vont de l'avant pareil. Ils font complètement fi des avis d'experts qui ont été rencontrés, qu'ils ont pourtant convoqués. Ça va débarquer dans votre cours dans le cas de C11 et C18. Non, 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 c'est les guns, on n'en veut plus. Bien, C11 et C18 ont passé. Puis tu vois, regarde, on vient d'apprendre que Meta va abandonner la diffusion d'informations journalistiques, d'informations et de publicité pour le Canada au lieu d'ajuster son algorithme pour l'ensemble de la planète à cause de C18. On est dedans, là. On est dedans à 100%. On est dans des processus qui sont rendus biaisés. On est rendu dans des consultations publiques. On le savait déjà que c'est pas mal de même, mais là, on le fait haut et fort. On a des consultations publiques, des consultations de comités d'experts qui sont convoqués pour faire bonne figure, mais qu'au bout de la ligne, le document, il ne change pas d'une virgule, pas d'une lettre.
Puis l'image aussi des chasseurs est entachée en raison de tout ce que les politiciens essaient de faire passer. Puis, tu sais, je sais pas si les gens savent c'est quoi les impacts là, à partir du moment où tu enlèves les chasseurs de la forêt. Là, il va y avoir des impacts qui vont être assez dévastateurs, mais ces gens-là sont pas conscients de ça. Eux autres, ce qu'ils se disent, c'est que les chasseurs, armes à feu, ouais, doivent être méchants, peuvent être dangereux, ces gens-là, alors que ça n'a aucun lien. Mais l'image qu'on envoie des chasseurs est c'est complètement débile.
Ben, c'est effroyable. Puis, tu sais, je veux dire, je me questionne sur l'éthique journalistique dans tout ça. Parce que au moment où est-ce qu'on a des grandes universités anglaises qui font des études sur l'impact sur les grandes forêts de l'élevage bovin, Puis la catastrophe vers laquelle on s'en va si on continue à se sourcer de nos élevages bovins versus, c'est fou, là, je veux dire, la forêt amazonienne, présentement, elle est condamnée, elle est entourée d'élevages bovins, puis elle est condamnée littéralement. Là. Tu sais, on nous parle de notre empreinte de carbone, on nous parle de... Mais la principale chose qu'on consomme, le bœuf, hein, on n'a pas tué, mais on a donné 20$ pour que quelqu'un le tue pour nous autres, là, pour acheter notre steak. Puis on se vire vers les chasseurs, qui sont des unités de gestion, qui agissent suivant des plans de gestion. Ils sont-ils tous parfaits? Non. Est-ce que tous les conducteurs sont parfaits? Est-ce que tous les consommateurs d'alcool sont parfaits? Est-ce que... Non, absolument pas. Mais on s'attaque à des unités de gestion qui agissent sur des plans de gestion qui vont aller normaliser des troupeaux. Et ça, là, on en a parlé tantôt, la capacité de soutien du milieu. Il y a des secteurs dans lesquels les lobbyistes ont réussi dans le passé à arrêter complètement la chasse, arrêter complètement. On a dû réintroduire des animaux dans ces secteurs-là parce qu'on a perdu les cheptels au complet. Maladie croisée, donc cross-contamination, du inbreeding, ça c'est de la congénitalité, donc des tares génétiques qui se développent, affaiblissement du soutien du milieu. Donc ton animal, au lieu de décéder ou de céder sa vie d'une balle pour nourrir une famille, il est mort aussi d'insouffrance, avec pas de bouffe ou en se faisant fesser en plein milieu du chemin. On a réintroduit des espèces animalières, puis on a adjoint des plans de gestion à ça. Où est-ce que, avec le contrôle et de la prédation et de l'animal prédaté, en termes de quantité de cheptel par des chasseurs qui, au lieu de voir l'animal mourir dans la souffrance, récolte la viande et la fait consommer à sa famille, mais on se rend compte qu'on a une gestion qui est saine en faisant ça. Et malheureusement, bien, on voit présentement les effets très pervers, je vais dire ça comme ça, sur nos cheptels animaliers, de la diminution des activités de chasse de par cette notoriété-là qui est entachée. Quand on a des chasseurs dans le bois, on a des trappeurs dans le bois, puis on a des pêcheurs dans le bois, on a des yeux dans le bois. On a des unités de gestion qui nous permettent d'agir quand il se passe quelque chose. Là, on les retire tranquillement pas vite. Là, on se rend compte que, ah, tabarouette, l'orignal dans zone 27, c'est une catastrophe. Il est en diminution, en chute libre, de par les opérations forestières, les opérations industrielles, les quartiers qui se bâtissent, les loisirs comme la motoneige hors piste, etc. Il y a énormément de problèmes qui surviennent, puis on se revient d'abord, puis on se dit, bon, on va diminuer la chasse. Non. c'est pas ça le problème. Un des problèmes, c'est que tu as de moins en moins de ces unités de gestion-là dans le bois qui, justement, dénotent un problème sur le cheptel dans tel secteur avant qu'il explose. C'est la prévention dont on parlait tantôt. Mm-hmm. Cette prévention-là, puis... La prévention aussi des cheptels qui s'expatrient ailleurs, qui se ramassent dans des secteurs qui n'ont pas d'affaires, qui ont trop de prédation, qui n'ont pas assez de prédation. On a un débalancement majeur dans nos cheptels animaliers. Puis, au contraire, il faut quasiment que je fasse attention quand je dis ça, mais au contraire de ce que les gens disent, c'est pas parce qu'il y a trop de chasse. Plus on va diminuer les efforts de gestion dans le bois par les chasseurs, les trappeurs et les pêcheurs, plus on va assister à des débalancements. Puis il va y avoir un manque au niveau de la prophylaxie, au niveau de la prévention qu'amènent ces chasseurs-là dans le contrôle qu'ils font des animaux et les prédateurs et les prédatés. Ça, c'est la stricte vérité. Les usines à viande, présentement, c'est en train de détruire des forêts. Puis je connais plein de bouchers puis d'éleveurs qui sont 100% éthiques, très professionnels. Puis honnêtement, là, ils font une christie de belle job. C'est pas de ça que je parle. Je parle des élevages à très grand déploiement qui... Si tu te sens bien avec ton 20$ à l'épicerie à dire que tu n'as pas tué de vache en payant pour faire tuer quelqu'un d'autre, puis tu regardes le chasseur avec dégoût, mais peut-être qu'un jour, quand on va être rendu à manger de la viande de synthèse, tu pourras regarder en arrière et dire ben, qu'est-ce qu'on a fait?
Oui, effectivement. Est-ce que c'est juste au Québec qu'on a cette perception-là? Non,
je suis partout. La France, c'est incroyable. Puis tu sais, regarde la France. La France sont en train de crucifier leurs chasseurs haut et fort. Mais ils ont été obligés de réintroduire en 2016 dans les Pyrénées l'ours brun parce que le clergé l'identifiait dans le passé à un opposant du Christ, hein, à Satan. Et puis, ils faisaient des battues pour assassiner les ours bruns. Puis ils viennent faire caca dans nos assiettes ici à nous pointer du doigt sur les récoltes qu'on fait au moment où est-ce que nous autres, on agit avec des plans de gestion qui sont orientés sur la pérennité de nos cheptels. Je veux dire, ils n'ont pas un mot à dire. Ils n'ont vraiment pas un mot à dire. Quand je vois faire les chasses à cours ou ben non, les chasses à glu, où est-ce que les oiseaux, de la glu après les arbres, puis les oiseaux restent collés après ça, puis ils tirent pendant qu'ils sont collés. Là. Ici, on est très différent, là. Okay. Très, très, très différent dans notre approche de la chasse. Là-bas, ça brasse beaucoup plus qu'ici. Là,
mais ça me rassure de savoir qu'on n'est pas les pires dans quelque chose. Tu sais, parce que juste l'épisode des cerfs à Longueuil, tu t'en souviens, là? Tu sais, les cerfs qui sont pognés dans un parc sont encore là. T'as une avocate qui tient mordicus à sauver toutes les chevreuils qui sont là. Tu sais, ce genre de problème-là, j'imagine qu'aux États-Unis, ce qu'on ferait, c'est qu'on dirait à des chasseurs, là, on s'organise, puis on capture tout, on tue toutes les chevreuils qui sont là, puis la viande, bien, avant aller à des organismes de charité pour nourrir des gens, puis après ça, on passe à d'autres choses. Mais ici, c'est des années et des années pour sortir des chevreuils d'un parc qui sont une problématique, puis qui vont probablement se faire tuer en sortant du parc, parce qu'il y a des chars partout qui passent autour.
Oui. Mais ici, on s'enferge dans l'imbécilité. Tu le dis, là, avocate. C'est une biologiste, une zoologue, une, je sais pas, une technicienne en aménagement de la faune? Non, c'est une avocate. Mais elle devrait savoir au départ comme avocate qu'au Québec, c'est interdit de domestiquer un animal. Ils maintiennent ces animaux-là en les nourrissant eux-mêmes. D'ailleurs, ouais. Le nourrissage est rendu interdit dans certaines périodes de l'année. Alors, ils sont entièrement contre la loi et ils sont en train de scraper ce cheptel-là qui va se ramasser des problèmes de maladies, de cross-contamination, de congénitalité. Évidemment, les chevreuils d'un cours des résidents sur les rues à se faire frapper. Aux États-Unis, là, le meilleur exemple, c'est Penn State University. En Pennsylvanie, là, ça a été catastrophique. Ils ont failli échapper ce cheptel-là totalement dans la gestion qu'ils en faisaient, entre autres en empêchant les efforts de chasse, etc. Ils ont réintroduit une gestion là-dedans. Sur le plan mondial, c'est rendu un exemple. Dans le Maryland, même affaire, c'est de la chasse à l'arc. Ce sont des chasses, des territoires de chasse traditionnels. Quand tu vas chasser là-bas, il y a tellement de chevreuils, tu as le droit à 12. Hey. 12 femelles.
Okay.
Tellement il y a trop de chevreuils. Ils sont rendus à appliquer des méthodes de gestion par la chasse pour justement permettre à ceux qui sont en vie de ne pas vivre dans maladie ou dans le manque de nourriture. Donc, on dit, ben à ce moment-là, pourquoi les risquer de les tuer puis de les sacrer aux vidanges? On va les consommer. C'est de la viande. De toute façon, nos élevages bovins créent de la pollution à côté d'embarrure. Il y a plein de chevreuils, là, il y en a trop. On va les consommer. Puis, effectivement, les organismes de bienfaisance, tiens, on l'a vécu aussi. Tu sais, l'Afrique, là, l'Afrique du Sud, là, un petit peu moins bien organisé qu'ici. Là. Mais pourtant, là, on est allé à la chasse, on est allé donner de nos mains au-dessus de 2600 kilos de viande aux crèches, aux écoles, puis à voix égaux. On a fait un contrôle du cheptel animalier. On a été récolter des animaux qui étaient trop vieux pour reproduire. On en a fait profiter de la localité. Ici, on a Chasseurs généreux qui existe, qui a été mis en place par la FDCP, qui est un des meilleurs systèmes qui a existé depuis l'existence de la chasse. Les Premières Nations l'ont de leur côté naturellement. Ils appellent ça la chasse communautaire. Il était temps que les pieds plats, nous autres, les petits blancs becs, on mette de quoi en place comme ça, qui fait que quand je chasse mon ours, je peux dire, garde-moi les fesses, je vais faire du smoke meat, le reste, donne ça à Chasseurs généreux. Il prépare la viande. Ton boucher généreux prépare ta viande. Il donne ça à un organisme moisson qui donne ça aux gens qui n'ont pas le moyen d'acheter de la protéine. On en a des moyens de faire, puis on a des moyens de contrôler ce genre de cheptel-là problématique dans le parc de Longueuil. Puis ça, c'est un secteur qu'il faut frapper quand même assez rapidement au niveau de la réalité ou qui va être frappé malheureusement dans la réalité qu'ils vont avoir mise en place. Ils sont acteurs de leur futur malheur, eux autres-là. Là. Parce que tu as un paquet de parcs comme Saint-Bruno et etc. qui attendent de voir l'issue de ce dossier-là pour répliquer la méthode de gestion dans leur secteur. Là, on va pondre des petits, mais on va pondre des petits tout croches. Hein. On va avoir un gros, gros, gros problème tantôt, là.
Et je te dis. Les meilleurs secteurs pour aller pêcher, Martin Bourget.
Dans l'eau. écoutez, à la grandeur du territoire québécois, il y a des lacs et rivières.
Mais tes spots, à toi, les gens, ils veulent connaître tes spots à toi, Martin.
Ben écoute, si on parle de doré...
Moi, t'entends rire, Martin. Là, je passerais ma soirée de côté des jokes.
C'est parce qu'on pourrait faire 4 heures là, de spot facilement. Ouais. On parle de doré. Votre spot principal, si vous êtes en milieu urbain, allez dans le fleuve. Allez dans le fleuve, il y en a bien plein. Sur le long de l'île d'Orléans, face à Lévis, il y en a. Sur le long de l'Émilie d'Lévis, il y en a bien plein. À Grondines, en haut, il y en a bien plein. Descendez par... le quai de Lobinière, allez pêcher sur le bout du quai de Lobinière, il y en a bien plein. Au Juvénat, ici, à Saint-Romain, il y en a. Quai des Cageux, l'autre bord, il y en a à côté d'Embarrure.
Le doré du fleuve, Martin, là, y es-tu consommable?
Il est excellent, OK? On conserve toujours la proposition de consommer avec modération, mais à toutes les fois, nous autres, qu'on le fait expertiser, on se dit, il n'y a aucun problème. Il est très, très, très comestible, il n'y a aucun problème. Il y a de l'esturgeon dans ce fleuve-là, mais du bel esturgeon, ça n'a même pas de bon sens. Si vous voulez continuer dans l'esturgeon, on monte vers le lac Saint-Pierre, lac Saint-Louis, lac Saint-François en haut, il y a pas dans l'esturgeon, mais dans le Doré. On monte vers Latuc aussi, en secteur de Latuc, très, très, très giboyeux en Doré. Toutes les pourvoiries sont à 25, là. Toutes les pourvoiries, là, à partir de, mettons, Oscar et Farrar, là, c'est du Doré jusqu'au réservoir Gouin en haut, en passant par l'Ours Blanc, en passant par tout ce secteur-là. Beaucoup, beaucoup de Doré. Vous pouvez vous louer des bateaux maison de ces réservoirs. Le secteur aussi, quand on monte vers Rouen, etc., là, la Vérendrye, le parc de la Vérendrye, il y a des pourvoiries dans ce temps-là. Vous dépassez en Abitibi, il y a de la pourvoirie. Ça, c'est Doré broché au bout. Il y en a bien plein, bien plein, bien plein. La truite, la Mauricie, les Mont-Valin, le Saguenay, il y a énormément de belles truites, énormément de grosses truites. La truite mouchetée, elle n'est pas dure à trouver dans ces secteurs-là. La Mauricie, vous avez le bas de la Tuque aussi, le bas de la 25. La majorité des pourvoiries, là, ils vont pouvoir vous offrir. Et on revient de la pourvoirie du lac du Moulin. Là. Écoute, la truite moulac, qui est un hybride entre la truite grise et la truite mouchetée. La truite mouchetée, de la truite grise, de la truite rouge du Québec, du brochet aussi sur place. Beaucoup, beaucoup d'espèces. Les petits ruisseaux, vous ne les pêchez pas assez. Vous passez ces routes puis vous voyez un paquet de petits ponceaux avec des petits ruisseaux. Vous essayerez ça, OK? Vos cannes à pêche pour l'hiver. Parce que quand vous rentrez dans les petits ruisseaux puis vous marchez le bras de petits ruisseaux, vos grandes cannes à pêche sont trop longues.
Okay.
Les cannes à pêche pour la pêche à la glace, c'est le format idéal. Okay? On rentre dans ces petits ruisseaux-là là, avec classique. Vous vous souvenez, vous achetiez chez Canadian Tire des petits montages Bobbit, des genres de petites cuillères rondes et des petits points rouges dessus. Un hameçon, un petit bout de verre là-dessus. Allez dans les petits ruisseaux en bordure des routes, vérifiez tout simplement avec le cultivateur s'il vous donne accès ou si ça n'appartient pas à quelqu'un. Rentrez dans un petit ruisseau. Vous allez pogner de la petite truite de ruisseau. On appelle ça de la micropêche, nous autres. C'est la meilleure truite au monde. Quelqu'un qui n'aime pas la grosse truite, parce que ça goûte trop poissonneux, qui est plus porté vers le poisson blanc, le persillé, la perche chaude, le doré, etc. Allez pêcher en petit ruisseau. Après ça, des secteurs comme Nicolette à la truite brune, il y a des opportunités de pêche au Québec. C'est incroyable. Pourvoirie Québec, sur le web, rentrez l'espèce. Le secteur que vous voulez pêcher, vont vous trouver une pourvoirie. Réseau ZEC Québec, même affaire. La CEPAC, très rapidement, là, des spots de pêche, on pourrait en parler pendant 4 heures encore. Là où est-ce qu'il y a de l'eau au Québec, il y a du poisson.
Ouais.
Il s'agit d'adapter sa méthode de pêche. J'entendais Claude Roy qui était en onde hier à la radio dans le coin de Québec, puis il me disait rallongez vos bas de ligne. Les gens ont l'habitude de prendre une cuillère à truite mouchetée, par exemple, puis mettre un 16-18 pouces de bas de ligne. Claude Roy a raison en tabarouette. Hein. Rallongez-moi ça. Là. 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds. En début de saison, là, on va des fois jusqu'à 8 pieds, d'un lac à l'eau claire, jusqu'à 8 pieds en arrière de la cuillère. Là. Puis au bout de ça, un petit leurre en plastique souple, vous ne vous graisserez pas les mains. Une sangsue ou encore un verre, vous allez vous faire du plaisir. Faites pas ça à 8 pieds en petite rivière. Dans la petite rivière, c'est la bobite puis le verre directement dessus. Des spots de pêche, là. Il y en a partout au Québec.
Ouais, tu parlais d'esturgeon. Moi, je n'ai pas eu un dans le fleuve Saint-Laurent pendant que je faisais de la plongée sous-marine. Puis j'ai fait un saut. Je pensais que c'était un requin. Tu sais, avec ma grande connaissance de la faune aquatique, là, j'étais persuadé que c'était un requin. C'est pas mal plus gros que je pensais. Moi, je pensais que c'était un genre de 30-45 cm. Là, mais il y en a qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Là.
Oh, facilement. Puis écoute, fais une petite recherche. White sturgeon, l'esturgeon blanc. On est en train de travailler pour monter là, avec un gars qui fait de la conservation, qui prend des échantillons là, pour aller pêcher les surgeons blancs dans l'ouest. Là. Ça, là.
Ah, ça, c'est 2 mètres.
Là. Hey, c'est incroyablement gros. Là.
Ouais.
On va faire aussi avec Marlon, qui est un guide de pêche qu'on connaît au Nouveau-Brunswick, sur la Saint-John, où est-ce qu'on pointe déjà de très, très beaux mosquis. Ah, ça découle entre autres du lac Frontière. Donc, le mosquis qui était mis dans le lac Frontière à l'époque coule jusque-là. Il y a de gros, gros, gros mosquis dans la rivière Saint-John. Mais quand on descend dans Sturgeon Alley, sur la rivière Saint-John, il y a de l'esturgeon à nez plat là-bas. C'est une espèce que... C'est pas mal la seule place que je connais où est-ce qu'on peut aller le pêcher. Tu sais, au Canada, là, il y a moyen de pêcher plusieurs espèces dans l'esturgeon. La chigan grande bouche, la chigan petite bouche dans l'ouest. Même sur le fleuve ici, dans Rivière-Chaudière, à hauteur de Saint-Lambert, il y a du bel esturgeon, des belles palettes à pêcher à la mouche, carrément en arrière du... Saint-Lambert-de-Lauzon, le petit pont qui passe par-dessus la rivière.
Ouais.
Il y a un casse-croûte l'autre bord avec un gaz-bar. Descendez là, allez vous mettre les pieds dans l'eau, sortez une moucheuse avec des petites mouches. Là, vous allez pogner les surgeons un en arrière de l'autre. Pas les surgeons, excuse-moi, mais de excuse-moi, je me c'est pas la bonne espèce.
C'est un peu gros.
Vous allez pogner de la chigan.
Okay,
dans ce coin-là, à côté.
Oui, effectivement, effectivement. Hey Martin Bourget, la dernière fois qu'on s'est jasé, là, tu nous avais appris que tu étais devenu le Elon Musk là, de la chasse et de la pêche. Tout t'appartient maintenant. Vous travaillez sur quoi ces temps-ci?
Bien, présentement, on est à bâtir la saison. Ça veut dire qu'en septembre, on est en onde à la télé. Donc, présentement, il faut produire du contenu. Fait que là, je dirais qu'à part l'administration de la business avec Michael et Kate, là, les deux autres nouveaux administrateurs, on est sur le terrain à filmer à plein. Là, on est en train de remplir les cartes, de remplir les disques durs pour que Nicolas puisse faire les montages pour être en temps pour la saison. Puis en plus, à partir de septembre, on commence à diffuser aussi sur le réseau Sportsman Channel.
Yes.
Qui demande à Nicolas à intégrer tous les sous-titrages en anglais là-dedans, parce qu'on est demandé un petit peu partout. L'émission, les gens l'aiment parce que c'est plus populaire, plus grand public, moins spécialiste, moins grand professionnel. Donc, ça fait ses petits en tabarouette.
Ben, l'image aussi est belle quand Kate est là, là.
Je t'aimais, toi. Je t'aimais. Pour vrai, j'avais de l'amour pour toi avant.
Plus de gros plans de Kate, moins de Martin, s'il vous plaît.
Oui, oui. Tu vas faire des plus beaux de dos, c'est ça.
S'il vous plaît, monsieur le réalisateur.
Ah, lui, il a compris ça. Il a compris les codes d'écoute grimpaient quand il filmait Kate. Il n'est pas flou, là. À ça, je suis propriétaire de la business, je comprends très bien ça aussi.
Voilà, voilà. OK, on peut vous retrouver à quel endroit, Martin?
Tous les jeudis 21h sur les ondes de Télémac, bientôt sur les ondes de Sportsman Channel. On est sur Carbon TV aussi, sur vos Amazon Stick. On est sur YouTube. On est aussi sur Zone 300 à grandeur du monde en français. Vous nous retrouvez une fois ou trois mois en kiosque. Vous abonnez directement en ligne. Venez vous inscrire à l'infolette carrément sur le site d'Aventure Chasse-Pêche. Vous allez savoir tout ce qui se passe. Sinon, on est en live pas mal à toutes les semaines. Encore là, mercredi soir, Kate est en live avec Roxane, si je ne me trompe pas. Du côté Filles de bois. Moi, je suis en live jeudi du côté de la NFA. On va parler justement de la C21. On est très, très, très actifs. Si vous ne nous trouvez pas, là, c'est probablement que vous faites des gros de l'eau.
Ouais. MartinBourget.com. Tiens.
C'est facile.
Ça existe
aussi, ça.
Ben oui.
Ça existe aussi.
Je te dis salut, puis on s'en jase dans quelques semaines.
Un gros merci. Salut, chum.
Salut, Martin. Bye bye.
Marceau, le soir. Le soir. Quand il fait chaud, tout le monde sait que le rock pis le soleil, c'est pas mal une combinaison gagnante. Et parlant de gagnant, restez à l'écoute de Boulevard 102.1 toute la semaine et repérez la chanson Rock Soleil. Inscrivez le nom du groupe en question au blvd.fm pour courir la chance de gagner une paire de billets en option plus pour un vol direct de Québec vers la Floride. Retrouvez-vous sous le soleil de Floride grâce à Air Transat et Boulevard 102.1.
C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Peu importe si vous offrez en location un condo centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale, au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca/hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec.
Dans une station de radio, il y a bien sûr les animateurs, mais aussi une grande équipe qui travaille en coulisses. Ça vous dirait d'en faire partie? Leclerc Communication est à la recherche d'un adjoint administratif et réceptionniste. Notre nouveau collègue devra être organisé, minutieux et courtois. Vous possédez ses qualités, maîtrisez la suite Microsoft Office et vous voulez faire partie de notre gang haute en couleur? Joignez-vous à nous. Postulez au carrière.fm.
Oricom a toujours les meilleurs prix pour des connexions Internet. Ils sont vraiment pas chers. 30 Mbps est à 34,95 $. Le 60 Mbps à 39,95 $. Et leur 120 Mbps à 69,95 $. Avec Oricom, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de pogne. C'est leur prix régulier. Pas 3-4 premiers mois et ensuite ils montent ta facture. Non, non. Ils sont ici à Québec en plus. Visite oricom.ca ou appelle l'équipe Oricom au 418-683-4557. Tu le regretteras pas.
On vous attend au Powwow international de Wendake, présenté par la Dévi, du 30 juin au 2 juillet. Accès gratuit à plus de 35 artisans Premières Nations. Démonstration de savoir-faire autochtone. Cuisine de rue et spectacle du vendredi soir. Achetez vos billets pour les compétitions au Cercle de danse et vivez une expérience vivante avec les danseurs et joueurs de tambour de différentes Premières Nations d'ici et d'ailleurs. Billets en vente sur powwowwendake.ca. Un événement pour toute la famille.
Le noir, c'est chic. Le blanc, c'est pur. Mais 10 % de rabais sur les portes et fenêtres Caron et Gay, noir ou blanche, ça, c'est complètement fou! Réputés pour leur PVC ultra blanc lustré et la qualité de peinture supérieure durable et performante, les portes et fenêtres Caron et Gay feront hommage à votre demeure, c'est garanti. Valide pour un temps limité en succursale seulement. Certaines conditions s'appliquent. CaronetGay.com.
Boulevard 102.1 a mené un sondage auprès de la population de Québec. Nous lui avons demandé...
Et vous, là, occasionnellement, est-ce que vous écoutez des fois Boulevard 102.1 en faisant du barbecue?
Boulevard quoi?
Ouais! C'est unanime. 100% de nos répondants disent que la radio officielle pour faire du barbecue, c'est Boulevard 102.1. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est tout pour moi ce soir. Et l'eau s'en vient dans les prochaines minutes. 15 à 25 mm annoncés de pluie. Donc, c'est ce qu'on aura possiblement. Maximum de 24 degrés. Minimum de 18 degrés pour ce soir et cette nuit. Demain, mercredi, des averses, risque d'orage en après-midi. Entre 15 et 25 mm de pluie annoncée. Un maximum de 22. Pour ce qui est de l'humidex, ça devrait être une température ressentie de 30. Demain, au moins, c'est confortable. Pour ce qui est de jeudi, ce sera des averses avec un maximum de 20. Et vendredi, pour terminer la semaine, eh bien, ce sera des averses avec un maximum de 23. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Puis on se rejase demain soir, 18h, pour ce qui est de Marceau le soir. Salut! Bye-bye!
Marceau le soir.
Ce segment d'émission présenté par Enviro-Confort. Cet été, profitez des meilleurs rabais pour vous procurer votre thermopompe ou votre climatiseur. Enviro-Confort.com.
Vous cherchez une activité familiale abordable? C'est au Stade Canac que ça se passe. Les Capitales sont en action ce soir, 19h05. Billets à 12 $ à capitaldequebec.com.
C'est vraiment trop compliqué, retourner aux études.
Non, mais si t'apprends des choses sur la technologie, là, tu vas avoir l'air d'un vrai petit génie.
Justement, pour un retour aux études en technologie, fais confiance au programme de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. Programmation, sécurité informatique ou design interactif et intégration web, on a de tout pour que tu te sentes comme Einstein. Visite le vousbrillez.ca.
Cet été, osez planifier des escapades dans les aides-chemins en Chaudière-Appalaches. Un parc aquatique avec plage et lacs naturels, des arrêts gourmands, des sentiers de randonnée pédestre ou de vélo de montagne, des paysages à couper le souffle et plus encore vous attendent à une heure de Québec. Vous êtes dernière minute dans la planification de votre fin de semaine ou souhaitez seulement vivre une aventure improvisée? Inspirez-vous au tourisme-aide-chemin.qc.ca.
Cet été, chez Vidéotron, optez pour un Internet capable de servir tout le monde, de la famille jusqu'aux amis des amis. L'Internet giga illimité est offert à 75 $ par mois, un tarif sans surprise, même après 24 mois. Certaines conditions s'appliquent.
Boulevard, c'est payant. Écoutez Boulevard 102.1, la radio officielle de la musique live à Québec.
Partez à Vegas et tu vas voir le When We Were Young Festival.
Merci. Je sais pas quoi dire d'autre, je suis pas panthère, là. On dirait que ça se peut pas.
Il y en a qui vont à When We Were Young Festival. Il y en a qui montent sur scène. J'ai dit, nous autres, on a gagné un tournoi de mini-pot à BLVD. C'est mieux que n'importe quoi. Ah,
on est là, nous y sommes. Ça fait une semaine qu'on attend le grand moment.
Je suis stressée.
Et on s'en va rejoindre quelqu'un en ligne. Marco, la bonne nouvelle, c'est que tu t'en vas chanter avec Nickelback la semaine prochaine.
Mais non!
Je pense qu'on aura compte.
Boulevard 102. Votre pocheur d'étiquette.
Clinique Proderm. Vos soins médico-esthétiques personnalisés.
Éclat distinct, pores, rides, densité vous interpelle. Augmentez la qualité de votre peau à 100% avec le micro-aiguillage combiné à l'acide hyaluronique. La cure présentement offerte à 50%.
À Lévis, Saint-Georges et cliniqueproderm.com.
Du 30 juin au 2 juillet, 450 cowgirls et cowboys de partout se rassembleront pour le rodéo Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Spectacle de rodéo à couper le souffle, dance country, chansonniers, bandes de musique, artisans et restaurateurs sur place. Faites vite, les billets s'envolent rapidement. RodeoSCJC.com.
J'aimerais ça aller en Floride. Hey, les parcs d'attractions à Orlando, la plage à Fort Lauderdale.
C'est ta chance! Air Transat et l'aéroport de Québec offrent des vols directs à destination d'Orlando et Fort Lauderdale. Facile, pas de stress et sans escale. Plus de temps, plus d'énergie pour faire les activités qui te plaisent sous le soleil.
Comme un tour dans les Everglades?
Ben oui!
Ou voir le coucher du soleil au Pier 66?
Ben oui! Tout ça grâce au vol direct d'Air Transat entre l'aéroport de Québec et la Floride.
Pour des créations uniques et sur mesure, c'est Mathurin Cuisine et Salle de Bain. Notre équipe dynamique se démarque par sa créativité et son innovation afin de vous faire vivre une expérience personnalisée de la conception à l'installation. Prenez rendez-vous dans l'une de nos 5 succursales, Mathurin Cuisine et Salle de Bain.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça. Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
3, 2, 1. BLVD 102.1.
Vous connaissez le feeling. Les lumières viennent de s'éteindre. La foule se soulève pour en avoir encore. C'est là que la magie opère. Le rappel d'Elo, c'est maintenant. Avec Elodie Derry.
Et trompez-vous pas, on est déjà mardi. Si comme moi, vous étiez en congé hier, des fois, ça devient un petit peu mêlant de se replacer dans cette semaine. Mais c'est mardi, le 27 juin, qui commence déjà à tirer à sa fin. Il reste une émission à vivre ensemble. Et on va la vivre pleinement avec de la bonne musique. C'est le rappel d'Elo. Elo, c'est moi, ça, Elodie Derry. Merci d'être là. Si vous avez envie de m'écrire en studio, il y a toujours le 88-971-1021. Je vous propose de commencer sans tarder avec la musique des Red Hot Chili Peppers, de P.O.D., Linkin Park, Papa Roach. Oh oui, tout ça dans les quelques prochaines minutes. Voici No Apologies au 102.1. I hope you know you don't have to say you're sorry.
Be a memory of a time.
California, show your teeth. She's 102.1.
Dairy Queen vous accompagne avec 102 minutes de rock sans pub.
C'est le 6 juillet prochain que ça va commencer le Festival d'été de Québec avec ou sans service du RTC.